Les Nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
De Jean Val, Deleuze a pu dire dans « Différence et répétitions » que toute l'œuvre est une profonde méditation sur la différence, sur les possibilités d'en exprimer la nature poétique, libre et sauvage. Sur l'irréductibilité de la différence au simple négatif. Sur les rapports non hégéliens de l'affirmation et de la négation. Jean Val, philosophe de la pensée non systématique, comme on dit, interprète devant nous, en 1956, le questionnement quelque peu anxieux de Jean Amrouche, un questionnement un peu perdu dans des chemins qui ne mènent nulle part, ramené aux sources de la philosophie par un certain Martin Heidegger. Il faut dire qu'on le serait à moins à cause de la langue d'abord et de la traduction, dont pourtant il ne sera pas question ici, mais aussi parce qu'il s'agit rien moins que d'assigner à la pensée même une nouvelle tâche.
La radiodiffusion Télévision Française présente Des idées et des hommes, une émission de Jean Amrouche.
Au cours de cette émission, vous entendrez un entretien avec Jean Val à propos de Heidegger et de Hölderlin. Il serait irrévérencieux de vous présenter Jean Val, parce qu'il est trop célèbre et parce que vous êtes nombreux déjà à le connaître. Il est ici ce soir à un double titre, comme philosophe et comme poète. C'est dire que Jean Val, esprit subtil et d'une rare pénétration, est plus que tout autre capable de rendre compte d'une double expérience, celle du philosophe, qui explique le monde et l'homme, et celle du poète de qui le propos n'est point d'expliquer, mais de composer telle combinaison de paroles qui sont douées du pouvoir de rendre explicable ce qui de soi est obscur. Vous vous rappelez les mots de Claudel dans La Ville, qui fait dire à l'ingénieur Bem que Coeuvre est le poète. Comme un arbre qui de toute sa feuille s'émeut dans le silence de midi, la paix en nous peu à peu succède à la pensée. Par le moyen de ce chant sans musique et de cette parole sans voix, nous sommes accordés à la mélodie de ce monde. Tu n'expliques rien, ô poète, mais toutes choses par toi nous deviennent explicables. On pourrait opposer, à propos de ce texte, la pensée qui cesse lorsque la paix s'établit par le moyen de la poésie, on pourrait bien dire que la pensée est ce qui distingue, ce qui sépare, tandis que la poésie a pour objet, au contraire, de rétablir l'unité de ce qui est séparé et de ce qui dans ce qui est séparé et qui souffre d'être séparé. Mais ce n'est pas à moi d'entrer dans le détail de cette expérience, c'est à Jean Val qui, j'espère, est impatient de vous parler. Je voudrais dire encore un mot. Jean Val a consacré tout un cours de Sorbonne à Heidegger et à Hölderlin. Je souhaite et qu'il veuille bien reprendre ce texte improvisé et lui donner une forme plus achevée. Et ce soir, j'aimerais que l'auteur des études kierkegaardiennes prenne la peine d'exposer quelques-uns des points essentiels de sa méditation de philosophe et de poète sur Heidegger et Hölderlin. Et d'abord, mon cher Jean Val, je voudrais vous demander pourquoi avez-vous choisi Heidegger ?
C'est une question que je me suis posée souvent Et depuis longtemps, puisque depuis longtemps, je fais des cours qui ont comme point de départ, et même plus que comme point de départ, qui ont comme texte Heidegger. Je le considère, malgré les différences qu'il peut y avoir entre lui et moi sur certaines attitudes, je le considère comme un des plus importants penseurs de notre temps. Notre temps est en un sens, et sur ce point, je suis d'accord avec lui, la fin de la métaphysique, j'ajouterai aussi la fin de l'ontologie, il en a eu conscience, et c'est en tant qu'il en a eu conscience que je me tourne vers lui.
Vous pensez donc que Heidegger est, sinon le plus important, au moins l'un des plus importants des philosophes contemporains, et vous attribuez cette importance à Heidegger parce qu'il a abordé les problèmes les plus importants. Ou est-ce que vous le considérez simplement comme le liquidateur de la philosophie classique ?
Là, il faut que j'entre dans des distinctions, car les problèmes qui sont les plus importants pour Heidegger ne sont peut-être pas les plus importants pour moi. Et pourtant, derrière ces problèmes différents, il y a des problèmes identiques. C'est-à-dire que lui s'intéresse avant tout à ce qu'il appelle le problème de l'être. Et quant à moi, si on me demandait mon avis, je dirais que ce problème n'est pas important. Mais derrière le problème de l'être, nous trouvons l'idée de monde, qu'au fond, en un sens, il a réintroduite dans la philosophie. Nous trouvons l'idée de l'être dans le monde, et cela me paraît de nouveau très important.
Vous avez pu remarquer, et je parle ici aux auditeurs, qui ont quelques connaissances de Heidegger. Quand je dis quelques connaissances, je ne fais pas seulement allusion aux quelques vagues lueurs que je peux en avoir moi-même. Vous avez pu remarquer que la pensée de Heidegger est constamment appuyée sur celle des pré-socratiques, particulièrement Jean Val, Anaxagore, Parménide et Héraclite. Est-ce que vous pensez qu'il a eu recours à ces pré-socratiques qui sont de nouveau en honneur, puisque en quelques semaines ont paru deux livres, deux traductions, précisément d'Héraclite, de Parménide et d'Empédocle. Est-ce que vous pensez que Heidegger a eu recours à eux en raison des circonstances historiques actuelles où se trouve la pensée philosophique, ou bien en raison d'une affinité personnelle avec ces philosophes pré-socratiques?
C'est d'abord, dirais-je, à cause de la situation de la philosophie à l'heure actuelle. La philosophie a commencé, d'après Heidegger, avec ces hommes-là, particulièrement avec Anaxagore. Et la philosophie, d'après lui, est aujourd'hui, sous une certaine forme au moins, terminée. Et en ce moment de la terminaison de la philosophie, il est naturel de se reporter vers son commencement, parce que peut-être nous sommes à l'aube de ce qui sera un nouveau commencement.
Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce qu'il entend par là? Est-ce qu'il entend par là que, par exemple, aujourd'hui, le pouvoir que l'homme peut exercer sur la nature ou sur la matière est tel que nous pouvons nous considérer comme étant à l'aube d'une nouvelle création ou de nouveaux rapports entre l'homme et le monde?
Oui et non. Le pouvoir que nous avons sur la matière est tel que nous nous rendons compte que l'homme va être en quelque sorte maître de la matière. Mais en même temps, comme il le dit en s'inspirant de Heidegger, de Hölderlin, les dieux sont partis. C'est cela qui caractérise ce qu'il appelle, après Nietzsche, le nihilisme.
C'est-à-dire la fin du sacré.
La fin du sacré. Et cependant, il a le pressentiment qu'il y a le sacré toujours et que nous devons nous remettre en contact avec lui.
Et pour quelle raison? Pour quelle raison nous remettre en contact avec le sacré? Pour quelle raison, en quelque sorte, nous retrouver devant, dans la même attitude devant nous-mêmes, devant le monde, qui fut celle de Parménide ou d'Anaxagore ou d'Héraclite?
Cela dépend de ce qu'on appelle raison. Mais s'il est vrai qu'il y a le sacré, et que le sacré nous appelle ou nous invoque, comme le dit, comme le pense Heidegger, nous sommes toujours tels que nous avons à nous tourner vers le sacré. Et d'ailleurs, nous sommes dans la même situation, nous avons à nous sentir dans la même situation qu'Héraclite et que Parménide, c'est-à-dire appelé par le sacré.
Vous pensez par conséquent que cette domination que l'homme est amené maintenant à exercer sur la nature, sur la matière, domination qui a été obtenue par le développement de la science, c'est-à-dire par des moyens profanes, nous fait perdre le bénéfice du sacré. Et que cependant, ce besoin du sacré est tellement inhérent à la nature humaine que l'homme ne peut pas, sans une très grave amputation, ne pas réintroduire en lui le sacré. Et que par conséquent, le recours au sacré est une chose qui est absolument nécessaire.
Oui, ce que vous dites est tout à fait exact, sauf le mot « réintroduire », car c'est le sacré qui se réintroduit, et ce n'est pas nous qui le réintroduisons, d'après Heidegger, et je pense d'après moi aussi, en un certain sens.
Bon, je ne veux pas entrer dans une discussion de mots avec vous à ce sujet, je voudrais reprendre maintenant mon questionnaire un petit peu plus général. Nous voyons pourquoi, peut-être, vous êtes intéressé particulièrement à Heidegger, mais il me semble que vous auriez pu aussi vous intéresser tout spécialement à d'autres philosophes, s'il s'agissait essentiellement pour vous de vous découvrir ou de vous définir par rapport à un philosophe contemporain. Je voudrais demander maintenant pourquoi Heidegger, lui, a eu recours à la méditation et à l'interprétation d'un poète. Pourquoi sa méditation ne s'est-elle pas bornée soit à la composition de poèmes, je crois que d'ailleurs Heidegger en a écrit lui-même, et pourquoi il a eu recours à un poète et à Hölderlin.
Il faudrait aller des raisons que j'appellerais extérieures, et qui ne le sont peut-être pas du point de vue de Heidegger, aux raisons plus profondes. Heidegger pense que la langue allemande a des privilèges. Je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point, je pense qu'on pourrait partir de Rimbaud, au moins aussi bien que de Hölderlin. Mais il lui faut un poète allemand, parce que d'après lui, l'Allemagne est le peuple du milieu et le peuple métaphysique. Alors malgré mon désaccord, il faut bien que j'admette l'existence de cette raison. D'autre part, il ne veut pas d'un poète classé comme romantique, à la façon de Novalis.
C'est pourquoi vous pensez qu'il a écarté délibérément Novalis?
Je ne sais pas si c'est délibérément, il l'a écarté.
Bon. Ensuite, excusez-moi de vous avoir interrompu.
Ensuite, il y a eu toujours une congénuité, si je peux forger ce mot, entre Hölderlin et les philosophes. Il était l'ami d'enfance de deux grands philosophes, Schelling et Hegel, et Nietzsche l'a considéré comme un de ses maîtres. Or, Nietzsche, c'est la fin de la philosophie occidentale, de cette philosophie qui est pour Heidegger toute la philosophie et dont Anaximandre est le début. Il est donc naturel de se tourner vers un de ceux que Nietzsche a reconnu.
On considérerait par conséquent Hölderlin comme un poète terminal.
Le maître de un des maîtres terminaux qui est Nietzsche. Parce qu'après Nietzsche, il n'y a plus rien, d'après Heidegger, que le commencement d'autre chose, probablement, qui est Heidegger lui-même.
Qui est Heidegger lui-même. Et alors, Jean Val, lui, philosophe et poète, se serait attaché particulièrement à Heidegger dans la mesure où la pensée de Heidegger se nourrit de la démarche poétique à travers les études et les méditations qu'il a faites sur les présocratiques et sur Hölderlin.
Si vous voulez, bien que ceci ait l'air de mettre au second rang la méditation proprement philosophique de Heidegger.
Je ne la mets pas au second rang, je ne porte pas de jugement sur la méditation proprement philosophique de Hölderlin. J'essaie simplement de démêler ce qui a pu vous attirer, vous, Jean Val, philosophe et poète, vers un certain sujet ou un certain prétexte d'étude. Car je pense que malgré tout, ce qu'il y a peut-être de plus important pour vous, dans vos études sur Heidegger et Hölderlin, c'est votre propre méditation à travers la poésie de Hölderlin et à travers la méditation philosophique de Heidegger. Et nous aborderions là alors le véritable sujet de cette conversation à bâton rompu, qui est de la relation entre la méditation philosophique et la vie poétique. J'entends par là l'expérience poétique qui aboutit au poème. Est-ce que vous pensez, comme je l'avais indiqué très sommairement en commençant cette conversation, que entre la démarche proprement philosophique et la démarche poétique, il y a une origine commune et qu'elle se distingue uniquement par des techniques différentes, ou bien est-ce que vous pensez que ce sont deux démarches qu'il convient de distinguer d'une façon radicale, à la fois par leur méthode et à la fois et par leur objet, par leur fin?
Oui, je m'accorde avec la première idée que vous venez de proposer. Ici, tout dépend de la façon dont on définit quelques mots, en particulier le mot « pensée ». Parce que ce qui m'a frappé dans ce que vous avez dit au début, c'est que vous avez dit « la pensée sépare ». Or, je n'en suis pas persuadé.
Enfin, je ne l'ai pas dit, je l'ai fait dire.
Oui, oui, vous l'avez fait dire à Claudel.
Je l'ai fait dire à Claudel, ou plus exactement à un des personnages de Claudel.
Oui.
Alors, vous dites, vous, que la pensée ne sépare pas.
Et en tout cas, Heidegger, pour ne pas parler de moi, dit que la pensée unit, que la pensée est essentiellement parole, logos. Logos, c'est, dit-il, cueillir et rassembler, c'est unir. La pensée unit. Le Denken, pour parler allemand, est avant tout activité d'union.
Activité d'union. Je veux bien. Nous pourrions beaucoup discuter autour de cela. Je crois tout de même que dans la notion de pensée, il y a l'idée fondamentale de peser et par conséquent que la pensée est par essence analytique. Mais essayons de voir quelle serait l'origine commune de la démarche philosophique et de la démarche poétique. Où la voyez-vous, cette origine commune ?
L'origine commune, ce serait dans une vision qui est en même temps parole.
Une vision qui serait en même temps parole. Mais ne croyez-vous pas qu'il y a lieu précisément de distinguer parole et parole ? L'une serait une parole essentiellement discursive, et ce serait la parole, disons, philosophique. Et la parole poétique aurait pour fin essentielle de permettre la participation à cette union. Elle a pour but non pas de faire penser cette union, non pas de la projeter dans un système conceptualisé, mais de lui laisser son caractère d'expérience, disons, concrète, vivante, viscérale.
Je crois que cette conception a un double inconvénient. C'est de cantonner la philosophie dans l'analyse et, en deuxième lieu, de ne plus faire de la poésie qu'un moyen pour exprimer quelque chose que, par ailleurs, on sait par l'analyse. Et cela, ça me paraît la négation des deux activités de la pensée et de la poésie.
Oui, mais rappelez-vous, pour en revenir toujours au texte d'où j'étais parti, c'est-à-dire à la ville, où le personnage de l'ingénieur philosophe Isidore de Bème, qui vient de découvrir le néant, parle de la connaissance et déclare qu'il vient seulement de découvrir que la vraie connaissance est une science sous la science, et il l'appelle lui-même ignorance. La participation, dans une certaine mesure, exclut la vision. Elle exclut tout au moins la vision projetée sur l'écran de l'intelligence.
Oui, d'accord. C'est-à-dire que toute grande poésie finit dans le silence, comme semble l'impliquer Bème et Claudel. Maintenant, que Bème dise telle chose, cela n'est pas gênant, puisque Claudel est à la fois Bème et Coeuvre, sans doute.
Oui, mais ça, ce qu'était Claudel est une autre question. Il était sans doute à la fois Bème, Coeuvre et tant d'autres personnages de son théâtre. Il n'est là qu'à titre d'exemple et pour essayer de guider un petit peu notre réflexion qui est passablement tâtonnante, tout au moins la mienne. Par exemple, nous parlions, avant que cette petite machine n'ait commencé à enregistrer, nous parlions de Spinoza. Et vous me disiez que Goethe avait dit de Spinoza qu'il était ivre de Dieu. La fin commune de la démarche poétique et de la démarche philosophique serait bien l'union avec Dieu. De sorte qu'après tout, la philosophie, le langage philosophique aussi ne serait pas une fin, il ne serait qu'un moyen. La distinction que l'on pourrait faire entre les deux, je n'ai pas à vous la rappeler, Valéry l'a faite, c'est la distinction fondamentale entre poésie et prose. La prose, selon lui, serait le texte qui s'abolirait dans le mouvement même de l'intellection. Dans la mesure où nous comprenons un texte de prose, il fait corps avec notre pensée, il se traduit dans notre pensée et nous pouvons très bien lui trouver d'autres équivalents. Nous pourrions le traduire par un autre texte qui pourrait lui être rigoureusement équivalent. Quant à la poésie, ce qu'elle a de plus particulier, c'est qu'elle tend à créer un état en nous, qui est cet état de participation ou d'union, tel que, pour reproduire cet état, il est absolument indispensable de recourir au terme même du poème. De sorte que la distinction est une distinction fondamentale. Ce sont deux aspects du langage, ou deux valeurs du langage, qui sont radicalement différentes.
Oui, je ne crois pas à cette dissociation. La position de Valéry était possible, parce que c'était un poète très important, un grand poète, et qu'il détestait les philosophes. Ce n'est pas mon cas. Je ne déteste pas les philosophes. Quand je rencontrais Valéry allant à la Société de philosophie, il me disait « C'est bizarre, vous me voyez encore parmi les philosophes. » Et on voyait bien en quel sens il disait que c'était bizarre. Moi, je ne trouvais pas que c'était bizarre, et je considère Valéry comme un philosophe, ce qu'il n'aurait pas voulu.
Oui, c'était peut-être une coquetterie de sa part, d'ailleurs.
Je ne crois pas.
Non.
Non, parce qu'il pensait qu'au fond, la philosophie, c'était une simple technique.
Oui, et vous ne pensez pas que la philosophie soit une simple technique ?
Je ne pense pas. Quant à cette différence, vous dites que la poésie est quelque chose qui fait corps avec sa forme et que la philosophie n'est pas dans le même cas, je ne crois pas que ce soit exact pour les vraiment grands philosophes, et même pour un contemporain de Valéry qui était Bergson, et que Valéry n'aimait pas, bien qu'il l'ait loué.
Est-ce que, pour abandonner les rapports de Valéry et de Bergson, qui ont été distingués par beaucoup de commentateurs de Valéry, on sait ou l'on suppose que Valéry a dû beaucoup à la pensée bergsonienne, et on se rappelle certaines strophes de Palme, par exemple, qui semblent être une traduction poétique de pensée bergsonienne. Est-ce que vous recevriez cette idée que la philosophie doit aussi conduire à l'enthousiasme, ce qui nous ramène à l'une des notions essentielles de la poésie de Hölderlin?
Certainement. Que la poésie soit tout entière enthousiasme, je le dirais.
Non, je parle de la philosophie.
De la philosophie. Oui, je le pense. Il y a un texte fameux, qui devrait l'être, de Descartes jeune, où il dit qu'il n'y a plus de philosophie dans la fureur des poètes que dans bien des dissertations des philosophes. Et je suis d'accord avec Descartes, avec ce jeune Descartes, sur ce point.
C'est le philosophe en vous qui est d'accord avec le jeune Descartes sur ce point, ou est-ce le poète invétéré que vous êtes qui est d'accord avec le jeune Descartes?
Les deux, je ne crois pas que cela se distingue aussi profondément, puisque les premiers philosophes, c'est Héraclite, en tout cas Parménide et les autres, étaient des poètes et des philosophes. De grands philosophes et d'assez grands poètes. Que Platon, au fond, bien qu'écrivant en prose, était un poète. Je ne vois pas de raison pour dissocier si profondément les activités de l'esprit.
Bien, je ne cherche pas tellement à dissocier qu'à distinguer les activités de l'esprit. Et d'ailleurs, il semble bien que si Heidegger, comme vous-même, a étudié d'aussi près un poète comme Hölderlin, c'est bien parce qu'il ne voulait pas distinguer ses activités de l'esprit, ou bien que, après les avoir si longtemps distinguées, il s'est aperçu qu'il ne fallait plus les distinguer. Mais nous sommes en apparence fort loin encore de Hölderlin, dont certains des poèmes, particulièrement le texte que vous avez traduit dans votre cours, comme en un jour de fête, a dirigé toute la méditation de Heidegger et je voudrais que nous y revenions.